Hello à tous, je suis Mélodie Schmaus, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité. Parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster deux fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Nicolas Barre, cofondateur de Make Ici. Nicolas et Christine, donc qui sont les deux cofondateurs, ont décidé de créer des lieux où les entrepreneurs du fer peuvent vivre de leur passion parce qu'ils étaient persuadés que l'intelligence collective est la solution pour travailler en harmonie. D'abord à Montreuil, évidemment, le fameux Make Ici Montreuil, puis Marseille, Nantes, le Puy-en-Velay, Ouaskéal. Make Ici s'implante aujourd'hui dans des quartiers en mutation partout en France. Leur but, c'est vraiment d'implanter des savoir-faire qui permettent à tous de produire localement de nouveau, mais aussi d'aider les publics en difficulté à se réinsérer par la formation, le renforcement du lien social et la cohésion territoriale. C'est un épisode qui est passionnant, bon je vous le dis tout le temps, mais je le pense vraiment. On va parler de la jeunesse du projet, d'écosystème, d'intelligence collective évidemment, de mutualisation et de communauté, mais aussi de plans de financement, de stratégie business et toujours de mesures de l'impact. Allez, trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Nicolas nous partage. Ah, et toujours pareil, n'hésitez pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast si vous a plu, ça m'aide toujours beaucoup.
Bonjour Nicolas, merci beaucoup de venir participer à cet épisode de Business Positif.
Bonjour Mélodie, ça va être plaisir.
Je suis très contente de t'accueillir ici parce que comme je te disais au début, ça fait un moment que je voulais, depuis le début du podcast en fait, que j'ai lancé pour de vrai il y a 2 ans et puis un peu plus intensément on va dire depuis quelques mois. Ça vous faisait partie des entreprises que j'avais vraiment vraiment envie de podcaster, donc je suis vraiment ravie sincèrement de t'accueillir ici. J'ai plein de questions évidemment. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter en quelques mots ce qu'est Make Ici et comment est née cette idée?
Alors, Make Ici, en fait, c'est une structure qui a pour vocation de concevoir et d'exploiter des tiers-lieux de production, donc des espaces dans lesquels des entrepreneurs qui ont besoin d'utiliser des outils de production, des équipements, qui ont besoin de lieux de stockage, peuvent trouver en fait tous les services qui leur permettent de se lancer, de se développer et d'apprendre.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces profils d'entrepreneurs et ces types de production? Juste, est-ce que tu as des exemples concrets de faiseurs, comme vous dites?
Oui, donc on a voulu faire des lieux où les savoir-faire manuels sont au cœur de notre écosystème. Donc, on a, en fait, dans nos lieux, on a 2/3 d'artisans d'art, donc des menuisiers, des serruriers, des relieurs d'art, des dinandiers, des ferronniers, des bijoutiers, par exemple. On a même des couteliers, on a à peu près une centaine de savoir-faire différents dans les métiers d'art, dans nos différents sites. Et l'autre tiers, en fait, est composé de pros de la conception, donc des designers produits, des designers industriels, des architectes, des co-créateurs, des artistes, et des pros de la fabrication numérique.
Ok, et ça va être au service de quel type de projet, du coup? C'est pour que eux puissent développer leur activité, avoir un lieu où ils peuvent la pratiquer? Ou bien est-ce que vous avez aussi une activité pour leur présenter des clients? Comment ça se passe concrètement?
Ouais, bah avant tout, en fait, ça leur permet d'avoir un atelier et les équipements pour pouvoir travailler et développer leur chiffre d'affaires. Donc c'est ça le premier rôle. Donc du coup, ils s'installent chez nous et ils ont soit le choix d'être dans un atelier partagé avec d'autres, soit les structures de 2 à 10, parce qu'on a des TPE aussi qui sont résidents chez nous, peuvent avoir leur atelier privatif.
Okay.
Donc en fait, le premier objectif, c'est ça. C'est de leur permettre de se développer. Ça marche comme un espace de coworking, mais pour artisans. Donc du coup, on ne partage pas simplement des bureaux et des chaises et du café. Il y a aussi des machines.
J'imagine aussi du coup de la collaboration entre les différents faiseurs qui sont sur place, quoi.
Oui, parce qu'en fait, entre eux, en fait, ils s'entraident entre eux. Quand un des résidents a beaucoup de travail ou de projet, bah, il peut le sous-traiter à d'autres collègues qui sont dans les ateliers, en fait. Et après nous, la structure, en fait, on a aussi nos propres clients qui nous confient en fait des projets de fabrication. Et donc les projets sont pilotés par un membre du staff de Make Ici qui constitue une équipe de résidents qui ont les savoir-faire.
Ok, génial. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi pour reprendre la genèse du projet? Parce que tout a commencé, il me semble, en 2012 avec Ici Montreuil, si je ne me trompe pas. Et toi, avant ça, tu étais plutôt dans une carrière de grosses agences de com avec des grands comptes, etc. pendant un bon moment. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le parcours que toi, tu as suivi qui t'a amené à un moment donné à monter quand même ce projet qui est ambitieux depuis le départ? C'est comme une belle surface dès le début, ici Montreuil. C'est quoi la motivation de tout ça?
Fin 2009, en fait, je me suis retrouvé indépendant. J'avais quitté la dernière agence dans laquelle je travaillais, en fait, on va dire comme ça, j'étais manager. Mon épouse Christine, elle, quittait son poste. Okay. On venait d'être parents, en fait, et Christine ne voulait pas retourner travailler au LCL, elle ne voulait pas y retourner. Et moi, je me retrouvais indépendant, j'étais consultant en com et je voulais arrêter ce métier. Et en fait, ensemble, avec Christine, en fait, on a eu l'idée de créer un lieu qui permet aux entrepreneurs du faire, comme on dit, nous, FIRE, de trouver à la fois les machines, quoi, les équipements dont ils ont besoin et qui ne peuvent pas se payer par manque de financement, la communauté et l'entraide, en fait, pour pouvoir se lancer et se développer.
Mais et comment elle vous a vu? J'insiste, en fait, si ça se trouve, juste tu n'as plus le déclic ou le moment, mais c'est marrant, qu'est-ce qui vous a amené sur ce sujet? C'est quelque chose qui vous parlait déjà, en fait, la notion de création et de ces personnes spécialistes du fer? C'était quelque chose qui vous animait?
Oui, en fait, on avait créé un... Donc, on habite Montreuil, dans le 93, oui. C'est la ville de France, où il y a le plus d'artistes et d'artisans au mètre carré, ou en tout cas au sein de la population active de la ville.
Okay.
Et donc on côtoie des artistes et des artisans depuis qu'on habite Montreuil, hein, au début des années 2000. Et en fait, Christine a eu l'idée de créer un livre et un guide qui met en avant les talents créatifs de la ville. Donc elle en a rencontré des dizaines, des centaines. On a édité un livre, on a fait un guide, on a financé des événements. Et en fait, de toutes ces rencontres, c'est là où on s'est aperçu qu'il leur manquait en fait l'accès à des machines qui ne peuvent pas se financer.
Ok.
Parce que les banques ne leur prêtent pas, qu'il n'y a pas de fonds d'investissement, que voilà, pour être menuisier, en fait, il faut déjà trouver l'atelier, il faut faire des aménagements, il faut acheter des machines, donc c'est 40 à 50 000 euros d'investissement pour se lancer. Ouais. La deuxième élément qui nous avait marqué, c'est qu'en fait, pour pouvoir trouver des projets, les amener au bout et les facturer pour pouvoir gagner de l'argent, bah, ils devaient souvent travailler avec d'autres. Le fait d'avoir rencontré ces centaines d'artisans, d'artistes de Montreuil, on s'est aperçu qu'il leur manquait trois choses, en fait. L'accès à des machines qui ne peuvent pas se payer, et notamment des machines numériques. Plus que il y a l'accès, mais il y a aussi la formation à ces machines. L'accès à une communauté de savoir-faire complémentaire de leur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on s'est dit que à Ici Montreuil, qui fait 1800 mètres carrés, ben il faut des artisans d'art, il faut des menuisiers, il faut des serruriers, mais il faut aussi des artistes, mais il faut des designers, et il faut aussi des pros de la fabrication numérique, parce qu'ils ont besoin de bosser les uns avec les autres. Donc en fait, le fait qu'ils soient dans le même endroit, ça leur fait gagner un temps fou, en fait.
Ben, c'est clair. Non, et puis c'est génial, je comprends encore mieux justement comment c'est né, c'est que vous aviez déjà cet intérêt, et ça explique aussi tout ce... Le fait que vous ayez démarré à Montreuil, comme tu dis, parce que c'est un lieu assez unique à ce niveau-là.
Oui, et puis le troisième point, c'est qu'ils ont besoin, en fait, c'est des entrepreneurs, en fait, qui sont à la fois comme les autres et différents, mais qui ont besoin de conseils pour parler à des banquiers, qui ont besoin de conseils en communication, qui ont besoin de conseils quand ils reçoivent une lettre des URSSAF. Donc, en fait, le fait d'être dans un lieu... Bah, y a le staff qui peut les conseiller, puis il y a aussi les autres résidents, en fait, qui ont peut-être vécu ça, et en fait c'est une communauté d'entraide qu'on a voulu créer. Et le dernier point, c'est que moi, venant du monde de la communication, en fait, j'ai été frustré. J'étais frustré en fait que les agences de com expliquent qu'elles, en fait, la vraie valeur ajoutée d'une agence de com, pour moi, c'était les idées qu'elle développe et qu'elle produit. Et en fait, tout le système d'une agence est fait pour flinguer les idées ou les faire mourir. C'est-à-dire que si un stagiaire a une idée, le patron du budget va lui expliquer qu'il est trop jeune et qu'il ne comprend pas. Si ce n'est pas le directeur de création qui a eu le truc, c'est pareil. Et donc, on voulait un endroit où les idées puissent être, comment dire, vivre, être testées, prototypées. Et après, si elles ne sont pas bonnes, elles meurent. Mais au moins, quand
on faisait une chance. Elles sont testées. Pour le coup, je te rejoins complètement parce que c'est aussi le but de l'agence que j'ai créée. Donc, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on exprime les idées et qu'il y ait de la co-construction. Et c'est de là qu'on sort des trucs géniaux qui, des fois, on teste, ça ne marche pas et qui, des fois, marche super. Et tout le monde en est. Tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est que, du coup, la fierté, elle est partagée aussi.
Ouais, c'est de l'intelligence collective, on va dire.
Collective, oui.
C'est-à-dire, quand tu mets ensemble des personnes qui ont des savoir-faire différents, des passés différents, qui sont des deux sexes, d'âges différents, de cultures différentes, t'es sûr de trouver les idées plus vite, quoi.
Oui, c'est clair.
Beaucoup plus vite et des idées qui sont plus justes, en fait.
Et est-ce que tu peux me dire comment vous avez mis ça en place ? Parce que là, vous travaillez en couple, en tout cas, vous avez lancé cette aventure en couple. Est-ce que tu peux juste me dire deux ou trois mots sur comment vous arrivez à gérer cette aventure en couple après toutes ces années ? Je trouve ça assez intéressant. Et puis, où vous en êtes actuellement en nombre de personnes, de collaborateurs, mais qu'ici, et puis en nombre de faiseurs qui sont présents sur... Alors, ici Montreuil, mais il y a aussi eu d'autres ouvertures depuis. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça, toutes ces personnes, les profils, l'énergie qui circule dans ces lieux-là?
En fait, on a vraiment eu l'idée à deux, en fait. Que le concept d'ici Montreuil, c'est vraiment Christine et moi, on a chacun amené nos envies et on n'aurait jamais pu le faire tout seul, en fait. Bon, après, une fois qu'on a fait ça, il fallait qu'on arrive à à se répartir les tâches naturellement entre nous, en fait.
Oui.
Au départ, on était quatre. Il y avait nous deux plus deux employés. Et aujourd'hui, là, en mars, on sera 25.
Et
on est passé, donc 25 employés CDI dans Make Ici, Make Ici travaille avec une centaine d'indépendants, de résidents, en plus pour monter les opérations de fabrication et notamment aussi les activités de formation qui représentent 30 à 40% de nos revenus aujourd'hui.
D'accord.
Donc c'est un écosystème assez long et en fait on a appris, nous, on a appris à travailler ensemble en même temps qu'on apprenait à notre rôle et nos métiers, quoi, chez Makeeasy, parce qu'au début on était tous les deux patrons d'un site et il a fallu qu'on devienne... coordinateur d'un réseau de manufacture avec des équipes dans chaque site et une équipe. Donc ça n'a pas été simple. On a testé, puis je pense qu'on a trouvé maintenant notre rôle. Donc Christine, elle a les fonctions de DRH, responsable de la communication, du branding, de la formation interne. Et on va dire que c'est elle qui supervise. Qui aide au quotidien l'équipe d'ici Montreuil.
Okay.
Et moi, je suis dans le développement, l'essaimage, la mise en place du modèle économique. Donc, je travaille surtout, moi, avec Raphaël, qui est le directeur des formations, Martin, qui est notre DAF, Darko, qui s'occupe du développement, Xavier, du marketing digital, puis avec les directeurs des sites, en fait. Les directeurs des sites, on a chacun avec Christine, on bosse avec eux, tous les deux sur nos missions ou compétences respectives.
Et est-ce que tu peux me dire aussi, je dis tu peux me dire, en fait, si tu peux nous dire, parce que moi, je j'ai vu, mais raconter un petit peu où en est le réseau aujourd'hui, parce que encore une fois, tout commence en 2012, on va dire, avec ici Montreuil. Il y a aussi le temps que cet atelier-là, enfin, cette manufacture-là se mette en place. J'imagine qu'il y a plein de tests, on va en parler après, mais qui sont faits aussi pour voir comment aider au mieux ces personnes que vous avez envie d'aider. Et puis ensuite, il y a l'ouverture du réseau à partir de 2017, si je ne me trompe pas, où là, il y a plusieurs lieux qui s'ouvrent, il y a des lieux qui vont s'ouvrir aussi. Pareil, on pourra en parler après. Mais est-ce que tu peux me dire, là, vous en êtes où concrètement? Il y a combien de manufactures, combien d'autres directeurs de sites?
Actuellement, on a 6 sites, 4 manufactures et 2 Fab Labs. Donc en fait, effectivement, on a ouvert ici Montreuil en 2012, on a ouvert ici Marseille en 2018, ici Nantes en 2019, la manufacture du Puy-en-Velay en 2020. Donc en fait, ça ne s'appelle pas ici le Puy-en-Velay, c'est parce qu'en fait, on a monté on a ouvert dans un centre AFPA. Et en fait, c'est une co-exploitation avec l'AFPA, qui est une structure de la formation pour adultes. Ouais, et après, on a deux avant-postes, ce qu'on appelle des avant-postes, donc des Fab Labs de 100 à 150 mètres carrés, qui sont en fait dans... Donc, il y en a un à Aix-en-Provence, à The Camp, qui est un campus d'innovation. On a deux employés à nous, et voilà, qui aident les entreprises et services innovation qui viennent à The Camp à maqueter et prototyper leurs idées. Puis quand il faut aller un peu plus loin, mais les prototypes, on va dire, sont fabriqués à ici Marseille, qui se trouve à côté. Et on a un Fab Lab à Montreuil qu'on a monté avec la mairie de Montreuil et 4 associations d'insertion qui s'appellent le Fab Lab de la Verrière à Montreuil, et dont le but en fait est d'aider des personnes en difficulté à retrouver une voie par le faire. Donc c'est un Fab Lab d'insertion et d'inclusion. On travaille avec les associations d'insertion, les écoles, les services de la ville, et on monte des programmes pour aider les jeunes qui décrocheurs à retrouver une voie et se remotiver, des femmes qui n'ont pas d'emploi à monter en compétences. Donc on a 6, puis là on en a 4 en préparation. En 2021, on va ouvrir à Wascal, dans la banlieue de Lille.
Ouais.
Dans le Morvan, dans un village au cœur du Morvan, à Paris, dans le 18e rue Ordener, et début 2022, on va ouvrir à Tours.
Ok, génial. Bon, pas de prévision d'aller du côté de Montpellier ou Sète pour le moment ?
Non, pas encore. Il y a d'autres. On a, des touches ou des projets pour d'autres villes, mais pas encore pour dans cette région.
Ok, bon, très clair en tout cas. J'aimerais bien savoir ce qu'est votre, parce que j'imagine que c'est partagé, votre vision et votre ambition. Pourquoi tu te lèves le matin par rapport à ce projet-là et tu as envie de l'amener où, en fait ?
Nous, le vrai, si je devais reprendre mon ancien métier et faire un pitch en 30 secondes, nous, notre rôle, c'est d'aider une génération de Français à vivre du faire, les failleux.
Oui.
C'est ça ? C'est-à-dire que c'est un métier qui a du sens. Quand on le réussit, on peut très bien vivre. On peut bien gagner sa vie. Mais c'est comme tout secteur, en fait. Il faut avoir des compétences de savoir-faire, il faut savoir bien s'entourer, puis il faut avoir le bon écosystème. Donc nous, on crée pas juste des endroits avec 4 murs, en fait. C'est des écosystèmes locaux avec des résidents, des partenaires qui aident à ça. Et de la formation aussi, parce que une des caractéristiques de ce métier, en fait, des métiers d'artisanat, du design, c'est quand même de maîtriser des techniques à la fois très anciennes, mais aussi des techniques nouvelles, modernes, de fabrication numérique, pour les aider dans leur processus créatif, leur processus de production. Donc, on se lève pour ça. Et nous, voilà, ce qui nous fait ce qui nous rend le plus fiers, c'est quand on a des gens qui sont des résidents qui sont arrivés et on les voit se développer, on les voit réussir, on les voit créer, en vivre déjà, être heureux, puis voir pour certains qui ont envie, parce que tous n'ont pas envie de ça, mais certains veulent créer des entreprises, embauche.
Oui, ça c'est génial, c'est clair. Vous êtes observateur de ça, quoi. Vous êtes témoin de leur évolution.
Oui, c'est ça.
Physiquement en plus.
Parce qu'après, on est aussi admiratif, c'est-à-dire que nous, on est partisans, on a lancé une structure qui aide. Mais réussir pour certains, c'est une vocation depuis l'école, on va dire, depuis qu'ils ont 15 ans. Donc on a à peu près la moitié où ils sont dedans depuis toujours. Et l'autre moitié, ils sont en reconversion. Et que ce soit les deux profils, avoir réussi à maîtriser un ou plusieurs savoir-faire, et à en vivre et à se développer, c'est un grand respect, parce que c'est utile. Mm. C'est utile, ça a du sens. Comment dire, pour moi, c'est l'archétype, quoi. Les artisans entrepreneurs qui ont créé des entreprises, qui ont créé de l'emploi. Ouais. Oui, et puis moi, c'est l'archétype de l'entrepreneur français. Pour moi, l'entrepreneur français, c'est pas celui qui crée une start-up MeToo d'un truc américain ou japonais. Non, c'est quelqu'un qui développe une entreprise, qui crée des emplois à partir de savoir-faire français produit en France.
Complètement. Je te rejoins complètement. Et il y a même un pont avec le monde artistique dont tu parlais. Enfin, je suis aussi pas mal dans ce monde-là, à titre perso. Mon compagnon est scénariste, en fait. Et c'est la même chose qu'on peut voir. Et je suis admirative de la même manière des artistes que des artisans. Où, en effet, en fait, ils vont créer quelque chose from scratch. Et ils vont l'offrir au monde. Et après, on peut même... Voilà, une équipe de film, quand un film est développé et se produit, bah, il y a toute une équipe qui se crée autour. Et pareil, c'est un moment assez magique. En fait, quand on prend un peu de recul et qu'on s'autorise à un peu rêver autour de ça, je trouve ça aussi beau que voilà qu'un artisan qui arrive à développer son activité, à recruter des personnes pour venir faire vivre les projets de ses clients, quoi.
Ah oui, et puis ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. Surtout, nous on a des artistes. Hein. En fait, nous on dit qu'on crée des communautés art, artistique, design et numérique.
Ok.
Et en fait, on a des artistes dans tous nos sites. Même si on est entre 5 et 10, on va dire. Et en fait, à Paris, on va ouvrir deux sites, un cette année et un dans 4 ans, en fait, où les artistes auront une grande place, parce que en fait, c'est un partenariat avec,
génial,
avec un promoteur qui s'appelle Emerige, et dont le président fondateur, Laurent Dumas, est président du conseil d'administration du Palais de Tokyo, et un grand collectionneur. En fait, il voulait absolument trouver... à créer des lieux dans Paris qui aident à la fois les artisans mais aussi les artistes et qui permettent aux artistes en fait de pouvoir fabriquer ou trouver ceux qui peuvent fabriquer leurs œuvres dans Paris.
Ah, génial. Bah oui, complètement, là aussi il y a des synergies de dingue à faire.
Ouais, donc celui qu'on va ouvrir rue Ordener, on aura les ateliers, une partie des ateliers du fonds Emerige. Il y aura 10 artistes qui seront hébergés ici Paris, et on va ouvrir la Fabrique des Arts en plein dans le Marais en 2025. Et là, ça sera 1200 mètres carrés dédiés aux artistes.
Ah, énorme. Donc, ok. Aux artistes. Oui, donc c'est ça. Donc la vision, elle est...
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Nous, la vision, elle est... Nous, on est hybride. Hein, c'est-à-dire que... on considère que... comment dire... Voilà, c'est pour ça qu'on emploie le terme entrepreneur du fer, nous, ou de l'artisanat. Tous, chez nous, il y en a qui sont tout seuls hein, et qui veulent rester tout seuls toute leur vie. Mais par contre, ils ont l'habitude de travailler avec plein d'autres. Donc même s'ils n'ont pas créé une structure avec des employés, ils ont une habitude de travail en commun et de créer une valeur ajoutée et de faire vivre plusieurs personnes. Mm. Et donc un de nos rêves, c'est de permettre à d'aider des artisans ou des artistes à créer des TPE, des PME qui se développent et qui créent de l'emploi.
Mais c'est clair. Oui, vous leur donnez tout le cadre possible, le meilleur cadre, le meilleur écosystème pour qu'ils y arrivent. C'est hyper, hyper inspirant. J'espère que ça le sera aussi pour les auditeurs. Je me demande, donc là, on a bien vu où vous allez, on a bien vu ce que vous faites, on a bien vu ce qui y a amené, mine de rien, et ce qui vous y a amené, parce que c'est une histoire de couple à la base aussi. Et puis où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que on peut revenir en 2012 et aux grandes étapes de cette aventure-là et que tu me dises comment concrètement vous vous êtes développé, c'est-à-dire que vous avez fait ce guide, etc. Donc vous vous êtes clairement intéressé au sujet, vous aviez la matière et sans doute la confiance pour vous dire que oui, il y avait un problème et que vous aviez une idée de comment y répondre. Vous avez tapé à la porte de la mairie, mais ensuite comment vous avez fait pour trouver le lieu, trouver les machines, trouver les entrepreneurs, trouver le modèle. Qu'est-ce que vous avez mis en place un petit peu, si tu peux me dire, ces temps un peu, incontournable du début d'une aventure comme ça, quoi.
En fait, qu'on a eu le concept, pour que ça existe, il fallait que le premier élément, c'était de trouver le lieu.
Oui.
Donc, en fait, c'est la maire de Montreuil de l'époque, Dominique Voynet, qui m'a présenté notre propriétaire, en fait.
Ok.
C'est une friche énorme à Montreuil. Et il a tout de suite aimé le projet et il nous a aidés. C'est-à-dire qu'il nous a aidés en débloquant des contacts et nous accordant des franchises de loyer et en cofinançant une partie du site.
Ok.
Ça s'appelle Monsieur Haroche. Et donc ça, on a trouvé le site. Après, on a fait le modèle économique, on a trouvé les financements. On a amené 20%, nous. La Love Money, donc des amis et autres, ont amené 20%. On a été lauréat d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le réseau Entreprendre, et ce qui nous a permis de décocher des prêts bancaires.
D'accord.
Enfin, donc du coup, on a trouvé c'était les financements pour pouvoir, financer les travaux d'aménagement, électricité, plomberie, curage, aménagement intérieur.
Et ça chiffre vite, non ? Enfin, je ne sais pas si tu veux pas donner les montants ou pas.
C'est-à-dire que moi, comme c'était le premier qu'on faisait avant, étant dans la communication, moi, mon boulot, c'était de faire des PowerPoint et de vendre des PowerPoint. Oui. Donc là, du coup, on s'est retrouvé à aménager un lieu, et en fait, il n'y avait aucun lieu ou aucun modèle économique où on pouvait vraiment s'inspirer, à part aux États-Unis où il y avait un lieu qui était à Brooklyn qui s'appelle Fort Ward, qui a disparu depuis, ou les lieux qui nous ont inspirés, donc qui étaient le bateau lavoir la ruche, mais qui étaient des lieux où il y avait des artistes à Paris au début du XXe siècle. Bref, donc du coup, on avait fait un plan de financement de 600 000.
Okay.
600 000 euros pour 1800 mètres carrés, j'avais légèrement sous-estimé. Hein. Il aurait fallu, il aurait fallu 800 000 euros en fait.
Okay.
En gros, maintenant nos sites ils font plus ou moins 2500 mètres carrés et c'est 800 000 euros d'investissement pour ouvrir.
Ok, mais c'est hyper précieux en fait de dire ça parce que justement c'est de cette expérience que vous savez, vous avez maintenant la connaissance pour la suite, mais la première fois, mine de rien, il vous manquait 200 000 quoi.
Ouais, parce que en fait, Montreuil fait 1800 mètres carrés. Le deuxième site qu'on a ouvert, Marseille, fait 3500 mètres carrés, donc il est deux fois plus grand.
Ouais.
Et en fait, on s'est aperçu que en fait, Montreuil est trop petit, mais Marseille est trop grand, on va dire.
Okay.
Donc on voit que le site idéal, nous, c'est 2500 mètres carrés. Et on n'est pas à la course à la grandeur, en fait, parce que après, si t'es trop grand, en fait, t'as trop de monde, et trop de bordel, et une communauté, en fait. Tu peux pas bien gérer ou bien fonctionner avec trop de monde au même endroit.
Ouais.
C'est pour ça que les espaces, en fait, c'est pour ça que les espaces de coworking de 5000, de 4000, 5000, 6000 carrés, il n'y a pas de communauté. C'est-à-dire que tout le monde nous raconte que c'est des lieux communautaires, c'est du pipeau total. Il n'y a pas de communauté là-dedans.
C'est de la loge de bureau en fait.
Voilà, c'est la loge de bureau avec chacun à son bureau. Donc du coup, nous, à un moment, on s'est dit, voilà, 3500 Marseille, mais maintenant, on fait des lieux plus petits, 2000-2500 mètres carrés, c'est pas mal, ça permet d'avoir une centaine de résidents et une quarantaine d'apprenants en même temps, et voilà, on dit que au-dessus de 150, c'est trop compliqué pour qu'il y ait une communauté qui soit cohérente.
Et alors justement, ces résidents, comment vous les avez fait venir là sur cette première édition d'ici Montreuil ? Vous faites les travaux, vous faites comme vous pouvez aussi avec c'est un peu cette poche trouée au niveau du financement, mais bon, a priori, vous arrivez quand même à vous défaire de ce problème-là. Comment vous les recrutez, oui ?
Bah, en fait, quand Christine a eu l'idée d'éditer un livre et plusieurs livres, en fait, on a créé un groupe et une communauté en fait, qui s'appelait Made in Montreuil.
Okay.
On avait des milliers de personnes qui suivaient, d'artisans, d'artistes. Donc, quand on a dit, on va ouvrir ici Montreuil dans 3 mois et ça fait ça, bon, on a eu plus de 850 demandes.
Ok.
Donc même, on se retrouvait, je me souviens très bien, en fait, on organisait nous des rendez-vous de présentation dans un café à côté, tant qu'on ne pouvait pas montrer l'intérieur, et on en faisait 4 par semaine avec 20 personnes. C'était un truc de dingue.
Énorme. Bon,
énorme. Donc en fait, on a rempli comme ça. Donc on a rempli tout de suite, très vite.
Et comment vous avez fait pour connaître leurs besoins ? Parce que vous avez aménagé, certes, vous aviez déjà une idée des besoins un petit peu, mais est-ce que vous avez fait de la co-construction ? Est-ce que vous leur avez demandé, avec ces ateliers, par exemple, ces points, quelles étaient les machines dont ils avaient besoin ? Parce que là, vous mettez à dispo du matériel ?
Bah, oui, on a fait remonter en fait, des besoins, et puis on travaillait aussi avec des artisans qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'il y avait le modèle économique. On s'est dit, pour que le modèle économique tienne, il faut des ateliers de menuiserie, il faut un atelier de menuiserie, il faut de la serrurerie, il faut aussi du numérique, il faut un atelier couture et autres. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout mettre non plus, donc il a fallu qu'on fasse des choix sur les savoir-faire et les artisans et entrepreneurs qu'on pouvait accueillir. Donc on a fait des choix, puis une fois qu'on a fait des choix, on s'est entouré, on a demandé aux gens qu'on connaissait, les machines qu'il faut mettre. Voilà, on s'est fait conseiller pour pouvoir avoir les bonnes machines. Puis, petit à petit, on est monté en compétence là-dessus.
Et vous avez réussi à atteindre une rentabilité, justement, avec cette activité ? Avec ici Montreuil ou avec le réseau
Alors, m'étant un peu planté sur le modèle économique et un financeur aussi nous a laissé tomber, on a failli fermer au bout de 4 mois, quand même.
Ok, d'accord.
on a failli fermer au bout de 4 mois. Mais du coup, après on a eu la chance d'avoir des gens qui se sont dit, même si vous n'avez pas fini les travaux, on va venir pour vous aider à finir les travaux, comme ça on pourra s'installer.
Ah, génial.
Et en plus, même si vous n'avez pas les moyens de payer d'acheter toutes les machines prévues, on va amener nos machines.
Ah oui, donc l'esprit communauté, il était déjà là, quoi.
Ouais, parce qu'il y en avait qui avaient vraiment besoin, donc comme ça. Puis on a eu la chance après d'avoir des... on a eu 4 entrepreneurs, chefs d'entreprise, en fait, qui nous ont dit... on croit à votre projet, un financeur vous a planté, mais c'est pas grave, nous on va mettre de l'argent. On va mettre de l'argent. Donc, ils sont 4, hein. Il y a Jacques, Olivier, Jérôme qui nous ont aidés, qui nous ont beaucoup aidés, et Stéphane. Et grâce à ça, on a pu finir les travaux, relancer, puis des clients sont arrivés, puis on a eu le chiffre d'affaires, et on était viable en fait au bout de 2 ans. Et la troisième année, on a commencé à faire des bénéfices en fait.
Génial.
Des petits, hein, parce que du coup, on réinvestissait tout, mais on était, rentable.
Oui, c'est que vous étiez rentable, ce qui est vraiment un des sujets cœur aussi de ce podcast, et que du coup, vous arriviez aussi à vous rémunérer, ce qui est aussi un autre sujet, j'imagine.
Ah oui, alors on a fait un plan de financement où on se rémunérait même 6 mois avant l'ouverture, et on a embauché le directeur des ateliers et le facilitateur 3 mois avant l'ouverture, et avec des salaires. Hein.
Okay.
C'est un conseil hyper important pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ne faites jamais de business plan où vous ne vous payez pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du bénévolat.
C'est clair. Merci pour ce conseil, effectivement. Ouais.
Et même, j'irai plus loin, c'est-à-dire qu'un investisseur qui voit que les fondateurs ne se payent pas, un investisseur digne de ce nom ne financera pas une entreprise où les fondateurs ne se payent pas. Pour une raison assez simple, c'est qu'on sait toujours que lancer une entreprise, c'est plus long que prévu, et que donc si les fondateurs n'ont pas les moyens de se payer et d'en vivre, ils vont devoir faire autre chose. Donc l'entreprise ne pourra pas se développer. Donc c'est la base. Une entreprise, il faut se rémunérer.
C'est clair.
On ne fait pas une boîte pour ne pas en vivre.
Oui, et puis du coup, c'est aussi savoir le prévoir. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que dans le plan de financement, il faut prévoir ça, et je te rejoins complètement.
Un petit salaire, quoi. C'est-à-dire que nous, si je me rappelle, au début, on avait dû se mettre 1 500 € chacun, net.
Ouais.
Alors, par rapport à ce qu'on gagnait avant, c'était... Tiens, mais c'est pas grave, on a décidé tout seul de se lancer, mais c'était pour enclencher la machine, en fait.
Oui, bien sûr. Oui, en fait, il y a aussi un rôle psychologique dans le fait de faire ça.
Oui, parce que du coup, il y a... C'est à la fois... lancer la machine pour se dire, c'est une activité, une entreprise où j'arrive à me payer, et petit à petit augmenter. On a mis du temps à s'augmenter, mais...
Et au fur et à mesure, vous avez réussi. Alors du coup, je comprends bien que ici Montreuil a rencontré son succès, et pareil, c'est vraiment hyper intéressant de voir comment ça s'est développé, et comment donc il y avait vraiment l'aspect communauté, donc vous avez pu tester avec ce lieu-là. Ensuite, ça s'est passé comment, les autres ouvertures? C'est vous qui êtes allé, ou c'est des opportunités, des gens qui sont venus vers vous? Et puis comment vous avez réussi à décupler aussi cette notion de... Parce que c'est ce que tu dis, c'est qu'au cœur de votre modèle, c'est la communauté, en fait, sinon ce serait de la loque de bureau et de salle, quoi. Donc comment vous faites pour décupler dans des endroits où vous n'êtes pas?
En fait, c'est... Alors, il y a vraiment... En fait, il y a à peu près 80% de ce qu'on avait vu en termes d'activité et de développement qui est arrivé, mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu du tout. On n'avait pas imaginé une seconde que des villes et des promoteurs nous contacteraient pour qu'on ouvre un site dans leur ville. En fait, les villes lancent des appels à projets d'aménagement de quartier, les promoteurs répondent, et pour pouvoir gagner, un promoteur de quoi, les villes de plus en plus disent, c'est pas simplement l'argent, c'est aussi les services, l'activité qui est dans le quartier.
Oui.
Donc du coup on bénéficie de ça, en fait. De plus en plus de villes se disent qu'il faut remettre de l'artisanat, remettre de la production, et donc du coup on a été contacté par 1, 2, 3, 4, 5, et des fois il y a des semaines on était contacté par 10 collectivités ou promoteurs, en fait. Alors 90% n'étaient pas trop forcément sérieux. Et donc, en fait, on s'est développé comme ça, en fait. Voilà.
Oui, il y avait un besoin. Au final, il n'y a même pas de limite, on n'avait pas de commercial, quoi. C'est vraiment...
Non, voilà. En fait, on n'a jamais cherché un site. À part le premier à Montreuil, tous les autres, c'est des demandes entrantes. Alors après, il a fallu apprendre ce monde de l'immobilier, voir comment il fonctionne, pour qu'on trouve des partenariats, en fait. Hein, parce que nous, petite TPE face à des Bouygues, des Phage, des boîtes énormes, il y a quand même une disproportion. Et donc, il a fallu qu'on apprenne. On a mis 4-5 ans, pas 4-5 ans, mais 3-4 ans, en fait, 2-3 ans plutôt, à trouver le bon système qui nous permet de créer un partenariat qui, en fait, qui nous permet de nous lancer avec les lieux dont on a besoin, l'écosystème, et sans dévoyer une seconde nos valeurs et ce qu'on fait. Quoi.
Oui, ce que vous êtes.
Oui.
Et alors, est-ce que tu peux me dire comment vous... encore une fois, hein, tu le vois bien, je suis très dans le comment et dans la pratique, parce que ça me rend très très curieuse. Tu vois, vous ouvrez ici Marseille, comment tu recrutes, comment tu choisis le coordinateur du site et vraiment, ouais, cet esprit, j'insiste un peu, mais c'est parce que je me dis, tu vois, c'est quoi les clés où tu lui dis, voilà, pour que le lieu, il fonctionne, nous, c'est ça sur lequel, voilà, il faut, c'est incontournable, il faut que ça y soit. Quoi.
Pour que ça fonctionne, il faut déjà le bâtiment qui correspond à nos critères, qui fait de 2000 à 2500 mètres carrés, parce que ça permet de développer l'activité, d'avoir le nombre de résidents, qu'il ait la hauteur sous plafond, qu'il soit dans un quartier, en fait. Quoi. Donc déjà, le bâtiment. Deux, il faut qu'il soit dans un quartier, ce qu'on appelle en mutation, où au cours des 5 à 10 prochaines années, le quartier va bouger, des nouveaux habitants, des nouveaux professionnels, nouveaux services vont arriver. Ce qui fait que c'est un écosystème qui peut apporter, en fait, qui va avoir besoin de nos artisans, en fait.
Ouais.
Donc, un écosystème favorable au développement économique. Et trois, après, il faut effectivement trouver le ou la directrice du site. Et en fait, nous, à Montreuil, ça a marché, parce que Christine et moi, on est de Montreuil, on connaissait Montreuil,
l'écosystème
de Montreuil. Donc, du coup, on reproduit la même chose, c'est-à-dire que le ou la directrice du site, c'est quelqu'un, c'est un professionnel de la production, qui vient soit du monde de l'ingénierie, soit du monde de l'artisanat, soit du monde du design, hein, des milieux créatifs, ça c'est la base. Deux, il a une expérience d'indépendant ou d'entrepreneur.
Ok.
Parce qu'au final, il devient responsable d'une activité économique, d'un budget, même s'il y a une équipe réseau qui l'aide, c'est lui la voix locale. Et trois, il est implanté dans la ville depuis 10 ans ou 10 générations. C'est-à-dire qu'on n'embauchera jamais, jamais quelqu'un qui est dans la ville depuis 2 ans. Jamais.
Ok.
Ça n'arrivera jamais.
C'est hyper intéressant.
C'est-à-dire que ça ne peut marcher. Ici, Marseille, ça marche parce que c'est David et Karim qui étaient à l'origine et qui sont qui est David depuis toujours, Karim depuis très très longtemps. Gatien, il est implanté depuis 20 ans à Nantes. Voilà, Mike, on recrute pour Wascal. Pareil, ça fait 10 ans, 15 ans. En fait, c'est parce qu'ils ont un écosystème, ils connaissent le territoire, en fait.
Oui, bien sûr.
Nous, on crée des lieux donc qui sont adaptés à un territoire.
Oui, vous amenez les outils, en fait. Vous amenez les outils, l'état d'esprit, et ensuite, c'est eux qui créent la magie, encore une fois, hein, l'esprit communautaire.
Nous, il y a le modèle économique. Il y a effectivement la méthode, les choses à ne pas zapper pour ouvrir un lieu. On n'a pas un process, mais on a une liste de trucs à ne pas louper, à ne pas oublier. Et après, on va dire qu'il y a 30%. On va dire que c'est pas des jumeaux ou des clones d'ici Montreuil, en fait, c'est des cousins. On va dire,
okay. Voilà.
C'est la même famille, ou des frères et sœurs plutôt. C'est la même famille, donc on a les mêmes valeurs, le même sang, on va dire ça comme ça, mais chacun sa personnalité. Donc, en fait, l'équipe locale amène sa personnalité au site.
D'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas de la franchise, ça reste quand même l'entreprise Make Ici.
Oui.
OK.
Et donc, parce qu'en fait, voilà, Gatien, il est ébéniste de formation, donc il amène une couleur de... En fait, il amène des savoir-faire et une typicité, une thématique à Ici Nantes qui est très dans l'aménagement intérieur... l'ébénisterie, d'art, le mobilier. David à Nantes, à Marseille, lui, il vient du monde de l'ingénieur. Donc lui, il est très prototypage, innovation avec des industriels.
Génial. Et du coup, il y a le camp juste à côté, quoi.
Oui, puis le dernier point qui est important quand on recrute, c'est que le ou la directrice du site, en plus d'être implanté localement depuis longtemps, il doit avoir une compétence que personne n'a dans le staff, ailleurs.
Ok.
On est une activité de compétence et de savoir-faire. Donc, en fait, on ne veut pas embaucher 15 ébénistes. Voilà, si on avait 15 sites,
oui,
que les 15 soient des ébénistes, on veut qu'ils soient tous différents pour qu'il y ait des compétences dans l'entreprise, en fait.
Il y a des échanges entre les sites, justement, du fait que chacun a aussi sa couleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Montreuil qui, des fois, a tout intérêt parce qu'il est ébéniste, à se dire, tiens, je vais aller faire un petit stage d'une semaine à ici Nantes?
Oui, c'est-à-dire qu'on crée des. Alors, c'est. Comment dire, on le fait avec le. Comment dire, avec le temps, on a des outils qui permettent de créer des groupes de travail intersites.
Ok.
On a aussi, ils s'échangent, on pousse aux échanges, en fait. Donc, on va dire que Gatien a passé beaucoup de temps à Marseille, en fait, pour aider l'équipe de Marseille à se lancer. Et donc, du coup, il y a de la réciprocité, en fait. On crée des ponts.
Oui,
c'est
c'est
pas
ça.
simple, hein, quand même, parce que c'est quand même des donc là, un des chantiers qu'on est en train de travailler, là, c'est arriver à créer un système qui permet de ne plus être dans des communautés locales, mais d'avoir une communauté nationale.
Ok.
À la fois staff et résident.
Ah, c'est hyper intéressant parce que c'est paradoxal. Enfin, et puis ça se retrouve beaucoup, c'est très dans l'air du temps. Ça se retrouve beaucoup le très local et en même temps le national ou voilà, avoir une communauté plus large. Mais c'est paradoxal dans le fait que vous avez des implantations hyper territoriales et du coup, chaque site qui pourrait limite vivre sans être dans le réseau. Et en même temps, comment trouver le lien entre eux, quoi.
Oui, ben, y a trois, en fait. En fait, on va dire que chaque site a des savoir-faire, mais n'a pas tous les savoir-faire. Et en fait, il y a des savoir-faire ou des artisans ou des professionnels dans d'autres sites. Et donc, on veut qu'il le sache. C'est-à-dire que si un résident de Nantes cherche un coutelier, ben, il doit savoir qu'il y en a à Marseille.
Oui.
Et il doit pouvoir le contacter facilement.
Et est-ce que tu as des outils à me communiquer qui vous aident? Tu vois, des outils un peu. Alors, je ne sais pas si vous avez développé en interne ou si vous avez des outils externes que vous utilisez qui vous aident à justement permettre cette communication-là.
Non, parce que. Alors, on est en fait, c'est le chantier en cours. On n'a pas encore trouvé la. On a plusieurs solutions, mais on n'a pas encore décidé de laquelle.
Ok.
Et après, chaque site a son Slack.
Ouais, ok.
Son logiciel de comment dire de réservation de salle. Donc mais
oui, chaque site est outillé.
Ouais, on va dire que ça va ressembler. On va dire que l'inspiration, c'est un peu les fan clubs, hein, on va dire ça comme ça.
D'accord.
Ou les communautés ou les clubs d'entrepreneurs, on va dire que c'est ça plutôt là. C'est-à-dire que le système qu'on va mettre en place, il a pour vocation première d'aider notre écosystème à développer leur activité économique, à simplifier la vie, à trouver des solutions, à s'inspirer.
Ouais.
Et en fait, on profite du fait qu'on est lauréat 2020 du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, là, du prix Parcours.
Ouais.
Il y a un prix prestigieux dans les métiers d'art, en fait. Donc, de bénéficier de l'accompagnement de la Fondation Bettencourt, en fait, pour mettre en place, pour trouver et mettre en place ce système.
Génial, je serais curieuse de savoir ce que vous avez pu trouver.
Qu'on aura trouvé.
Oui, c'est clair, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille avec une partenaire, justement, comment on anime des communautés efficacement et comment on engage, avec plaisir. Je ne peux m'empêcher de poser une question quand même sur le contexte actuel, parce qu'on est en mars 2021 quand on enregistre, tout début mars, et donc il y a toujours du Covid dans l'air. Est-ce qu'il y a eu un impact de cette crise sanitaire sur vos activités? Et surtout, j'imagine que oui, d'un côté positif ou négatif. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ça vous a apporté de la résilience, des apprentissages, des manières de faire autrement. Est-ce que vous avez dû adapter certaines des actions que vous faisiez?
Ah oui, c'est-à-dire que comme tout le monde, nous ça va 2020 va se terminer avec 30 à 35% de revenus en moins.
Ok.
Par rapport à 2019. Mais du coup, quand on est rentré en premier confinement, il a fallu qu'on adapte le mode de travail. On est resté ouvert, nous, parce que c'est des lieux professionnels avec des métiers qui pouvaient continuer à travailler. Puis nous, on ne voulait pas empêcher nos résidents d'avoir accès à nos sites. C'était à eux de décider. Par contre, le staff, on est tous passés en télétravail, à part, on allait une fois par. Il y avait une personne par jour, par semaine, pour assurer un peu de présence.
D'accord.
En gros, on a trois sources de revenus, nous, les abonnements, la formation et la fabrication. On a tout de suite vu que la fabrication, ça allait vraiment être très compliqué. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur notre stratégie de formation, notre catalogue, la mise en place de nouveaux modèles de formation. Et en fait, ce qui nous a permis de... On a perdu du temps sur plein de choses. La fabrication, il y a 3 sites qui n'ont pas pu ouvrir cette année, l'année dernière qui n'ouvrent que cette année. Mais okay. par contre, on a gagné du temps sur la formation et sur l'activité qu'on a pu mettre en place. Et qui se développe, qui en 2021 va représenter 40% de nos revenus, hein, je pense. Hein.
Alors ok, pas, donc c'est énorme.
Alors qu'en 2019, c'était, je crois, 5%. Quoi.
Et quand tu parles de formation, on est d'accord que c'est la formation pour vos résidents?
Alors, c'est pour nos résidents et pour d'autres. En fait, on a 2 types de formation. Okay. En fait, des modules d'une semaine de montée en compétences finançables par le CPF pour apprendre une technique.
Donc tu vois, j'avais pas du tout vu ça, d'accord. Ben, donc ça, c'est toute personne qui est un collaborateur qui a envie d'une entreprise, on va dire, classique, qui a envie d'apprendre une technique manuelle ou de revenir un peu au manuel sans faire de reconversion, il peut se former avec son CPF chez vous.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des indépendants qui veulent monter en compétences et d'autres qui veulent... qui se disent, voilà, je voudrais être menuisier, mais avant de me payer, de faire un CAP, est-ce que je vais faire, je vais passer 2 semaines dans les ateliers avec des professionnels pour voir si ça me va, quoi. Et en fait, l'autre catégorie de formation qu'on a, c'est, on travaille en fait avec des collectivités, des fondations, en fait, pour aider des demandeurs d'emploi ou des personnes en difficulté à se reconvertir dans ces métiers-là.
Oui, ok.
Voilà, donc c'est des programmes à 3 ans. Donc ça, là, en fait, le côté résilient, c'est de se dire... Il y a 3 sites qui vont couvrir cette année. La fabrication qui représentait 30% de nos revenus va être proche de zéro en 2020. Mais du coup, on va se prendre le temps de bien définir la formation pour bien mettre en place notre catalogue et bien le développer pour qu'en 2021, ça fonctionne très bien. Donc,
Oui, c'est le chemin que là, vous avez l'air d'emprunter, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. On mettra les liens dans le petit article qui accompagnera le podcast, parce que c'est vrai que ça peut effectivement plaire à plein de gens. Enfin, je le vois même à titre perso autour de moi, il y a de plus en plus de gens, et je suis dedans d'ailleurs, qui n'ont pas envie de quitter le monde de l'entreprise ou le monde digital, mais qui ont envie d'apprendre des savoir-faire sans forcément se professionnaliser aussi, et qui peuvent justement les financer par plein de moyens. Ouais.
Les deux modules qui fonctionnent très bien pour l'instant, c'est impression 3D, c'est une semaine, hein. Et concevoir un meuble, c'est 2 semaines.
Bah, c'est ça. Non, mais c'est clair, ça parle direct. Ok, bah écoute, je mettrai les liens. Si ça m'intéresse, au-delà de tous les enrichissements que tu as pu nous apporter dans ce podcast sur l'entreprise elle-même, si ça peut aussi intéresser sur ces formations-là, tant mieux. Il me reste quelques questions.
Le dernier, sur 2020, on a embauché. C'est-à-dire qu'en même temps que de perdre... le chiffre d'affaires, on a embauché et on a investi dans le marketing digital. C'est-à-dire que moi, j'ai été marqué au début de... J'ai rencontré des entrepreneurs quand on s'est lancé. Ouais. Et il y en a notamment 2 qui m'ont dit, c'est dans les moments de crise qu'il faut investir.
Ouais, ah, j'ai la même leçon en tête. Ok, ouais.
En ressources humaines et en autres. Donc, on a embauché un directeur de la formation, on a embauché 2 personnes à Nantes, alors qu'on savait que Nantes n'allait pas complètement se lancer. On aurait pu rester à 1 au départ. Ouais. On embauche là, une responsable des opérations de formation. On a pris 2 apprentis aussi. Et on a même investi dans une web série pour expliquer comment nos résidents vivaient et se développaient. Donc on a pris des risques financiers, on va dire.
Ouais.
On voit qu'au final, une entreprise, c'est des gens. Donc, avec les gens qu'on a embauchés, on a pu créer toutes les conditions qui permettent que 2021 devrait bien se passer.
Ok, génial. Et du coup, vous êtes assez positif ou assez confiant sur le fait de retrouver un chiffre d'affaires
en fait, jusqu'à début novembre, c'est une vraie galère. Mais en fait, les 2 derniers mois de l'année, on a gagné des gros projets de formation sur 3 ans dans 2 régions, en PACA et en Île-de-France. Il y a eu le fameux prix de la Fondation Bettencourt qui nous fait monter en notoriété dans le monde des métiers d'art. On a aussi le 24 décembre, c'est vraiment le 24 décembre, jour de Noël, de la veille, on a appris qu'on avait remporté un lot de fabrication pour les Jeux Olympiques. Donc en fait, notre communauté va fabriquer une partie du mobilier des événements des Jeux Olympiques 2024. Et donc ça, il va déjà y avoir des projets cette année.
Oh, c'est génial pour se projeter justement dans une, bah, c'est ça, dans une phase comme ça où il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se projeter, pouvoir se projeter sur un projet qui a lieu dans quelques années, c'est aussi énorme, j'imagine, pour l'état d'esprit de l'équipe, quoi.
Oui, puis nous, quand on dit à nos résidents qu'on va avoir, on va pouvoir les faire bosser sur des projets, quoi, sur des aménagements pour les Jeux Olympiques, ça les faire tous rêver, quoi.
Bah ouais, c'est clair. Génial. Ok, hyper inspirant aussi, quoi.
Donc en fait, c'est juste que c'est voilà, on a bossé, on est monté en compétence pour ça, quoi.
Et alors, il me reste mes petites dernières questions. On a passé plein de choses en revue, donc les défis à venir, je pense on en a bien parlé. Échec et apprentissage, au final, t'en as parlé aussi. C'est des questions que je pose, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé au fil de l'eau. J'ai une petite question sur, est-ce que vous mesurez votre impact? Est-ce que vous avez une démarche RSE en interne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou vous le faites organiquement? Je ne sais pas.
En fait, on s'est développé, nous, parce que deux fonds d'investissement à impact sont rentrés à notre capital, le
Ok.
fonds Novès et le fonds Inco. Et en fait, ils ont développé une méthode de mesure de l'impact qui s'appelle MESIS. Et en fait, on a défini ensemble nos indicateurs d'impact
Génial.
qui répondent aussi à notre mission, parce que nous, on est une entreprise de agréé ESUS.
Ok.
Donc, c'est un label hyper, comment dire, exigeant.
Contraignant dans le bon sens du
Ouais,
terme, ouais.
très
Ouais.
contraignant, hein. C'est 10 fois, je sais pas combien, 20 fois plus contraignant qu'être une entreprise à mission, hein.
Oui.
Surtout si je fais une parenthèse, qu'on voit que Danone est une entreprise à mission et qui vire 2500 personnes, ça me laisse sans voix sur ce label d'entreprise à mission, hein. Bref,
Oui.
c'est un autre sujet, mais
Ça
bon,
pose des questions, c'est clair. Non,
voilà,
non, mais c'est clair.
c'est un peu pipeau ce truc, mais bon, bref. Et donc du coup, on a plusieurs indicateurs qui sont un qui est le chiffre d'affaires qu'on aide à générer, que notre écosystème génère, à la
Oui.
fois nous et nos résidents. Le nombre de personnes qu'on aide et qu'on accompagne dans nos formations.
Oui.
Comment dire, comment on va dire ça, la partie écologie, le nombre de déchets qu'on génère et qu'on arrive à retraiter.
Ok, donc ça, vous le calculez.
Ouais. Alors c'est pas simple. Alors,
Oui, c'est
on
pas
sait que
simple.
nous on a tonnes, on connaît les familles de déchets, on connaît le tonnage, et on a déjà des solutions pour de réutilisation, et on trouve des partenaires ou des structures qui nous aident à réutiliser, à réemployer. On n'a pas des solutions sur tout, mais on travaille quoi, pour en avoir de plus en plus.
Ok, bah oui, j'imagine. Bah, de toute façon, il n'y a jamais du 100%, mais en tout cas, vous êtes vraiment embarqué dans cette démarche-là, quoi. Et du fait aussi des fonds qui sont entrés, c'est intéressant que ce soit par ce biais-là que vous ayez une méthode.
Oui, comme les fonds Impact, Novès et Inco notamment, ou l'ITA, bah, du coup, ils investissent dans une entreprise, ils espèrent récupérer à terme leur investissement, mais du coup, eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas juste gagner de l'argent ou que
Bah, bien
l'entreprise
sûr.
gagne en valeur, c'est surtout qu'elle ait un impact, donc un impact sur des populations ou sur la planète.
Bien
Donc
sûr.
des populations en difficulté, donc les artisans dans la précarité ou des demandeurs d'emploi ou des décrocheurs, mais aussi voilà sur les circuits courts, l'empreinte carbone.
Oui, ça a complètement du sens. Ok, bah, hyper intéressant. Et puis je mettrai aussi les liens de ces fonds parce que c'est. Je ne sais pas si on peut voir leur méthode, mais en tout cas, ça peut être sympa pour ceux qui écoutent d'aller regarder leur approche. Tu vois, et puis peut-être aussi des personnes qui cherchent justement à lever des fonds en ce moment. Donc, c'est toujours aussi intéressant de voir les noms.
Sont toujours à la recherche de projets intéressants.
Ouais, voilà. Donc, on le mettra bien aussi. Des petites notes à moi-même et à nous-mêmes avec l'équipe qui m'aide. Dernière petite question. Est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs? Il y en a plein dans notre échange, mais est-ce que tu en aurais un à relever, à livrer aux personnes qui nous
Bon,
écoutent?
le conseil que si peut-être le conseil que je pourrais donner, c'est que même comment dire, faut toujours prendre du sens du quand on est entrepreneur, quoi, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat impact, c'est tellement prenant et tellement intense, on va dire, parce que
Ouais.
tout est intense, hein, quand on est entrepreneur, hein, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, mais c'est ça qui est bien, hein, il faut garder du temps pour soi, voilà, il faut penser à soi,
OK.
et avoir des moments pour soi et ses proches. Ça, c'est super important. Moi, même si je bouge beaucoup, un peu moins depuis un an en
Ouais.
province, voilà, pratiquement 4 jours sur 5, on dîne en famille, quoi, avec notre fils, quoi, le soir.
Oui, c'est hyper important. Oui, un peu lever le mythe de tu vas plus dormir et rentrer tous les soirs à 23h, quoi.
Voilà. Ouais, non, ça marche pas, ça.
Sur la durée, oui.
Non, ça marche pas, ça. Ça marche jamais, ça, de travailler comme ça. C'est épuisant. Et,
ouais.
et puis du temps pour ses passions, quoi. Pour ses passions, ses centres d'intérêt. Voilà. Même au début, hein, moi j'ai très vite, en fait, les mercredis, j'allais pas ici mon travail. C'est-à-dire que je restais bosser à la maison, j'allais chercher mon fils, on allait au resto, j'emmenais au foot, j'allais faire du sport et je rentrais. Le foot, c'était en face ici Montreuil, hein, mais je ne mettais pas les pieds ici Montreuil.
Ah, génial. Oui, vraiment de s'octroyer ce temps. Écoute, je...
Bah, quand t'es, nous, en plus d'avoir l'équipe qui nous demande souvent des choses, on est au milieu de nos clients. Nos résidents sont nos clients. Donc c'est ça qui est génial. Mais du coup, quand on est dans nos lieux, on discute beaucoup, on travaille beaucoup avec eux, on les aide. Donc c'est important d'avoir des moments où on est tout seul, où il n'y a personne.
Oui, pour se recharger aussi, puisque tu ne peux pas avoir l'énergie à consacrer à tout le monde en permanence, quoi. Tu as besoin de recharger les batteries au quotidien,
pour
en fait.
Se recharger, puis je crois ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est que d'arriver à un moment où à la fois les entrepreneurs, les patrons des boîtes et le staff arrivent à avoir un tiers de leur temps sur des sujets à résoudre des urgences du mois en cours, quoi, des sujets à court terme, un tiers de sujets à court terme, un tiers de sujets à moyen terme et un tiers de sujets à long terme. Ce qui fait que quand on a un temps comme ça, ben en fait, on n'est pas que dans l'urgence. Et donc, il faut se laisser des temps où on peut réfléchir à des projets à 2 ans, 3 ans, 5 ans.
Ah, c'est clair. C'est clair. C'est hyper, hyper précieux aussi.
C'est les tiers, ces 3 tiers, là.
Oui, ouais, de garder en fait la place pour le long terme, très clair.
Oui, parce que on s'est aperçu qu'on se développe parce qu'on a rencontré des gens il y a 3 ans ou 4 ans.
Oui,
ou qu'il y a eu des sujets. Ouais.
C'est toujours... Oui, c'est clair, et ça se retrouve très souvent, c'est clair. Ok, génial. Écoute, il me reste 2 petites questions. La première, celle dont je t'ai parlé juste avant qu'on enregistre, donc c'était un petit peu, des fois c'est un petit peu dur, mais voilà. Une musique ou un film qui illustre ta vision à toi de l'impact positif et du business cette...
Alors, y a un film qui m'a marqué, alors, qui n'est pas du tout dans le... en fait, c'est un film d'entrepreneur, mais pas sur... une entreprise d'impact, mais c'est À la recherche du bonheur avec Bruce Willis.
Ok.
En fait, c'est un entrepreneur qui raconte sa vie. Et en fait, le personnage, donc c'est issu d'une histoire vraie, en fait, c'est un commercial qui vend des appareils médicaux. Il n'arrive pas à en vendre. Donc, du coup, sa femme le quitte parce qu'elle en a marre.
Ouais.
Et il se retrouve sans logement et à s'occuper de son fils. Et son obsession à lui, c'est que son fils dorme dans une chambre et au chaud tous les soirs.
Ok.
Et donc... À un moment, il se dit comment je vais pouvoir y arriver. Et en fait, il découvre le métier du trading, qui n'est pas du tout un métier à impact. Hein.
Ouais.
Mais en fait, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que donc il se retrouve à être stagiaire dans une boîte de trading. Et en fait, ils sont 100 stagiaires et on leur dit voilà, celui qui aura les meilleurs résultats sera embauché à la fin de l'année, sera à la fin du stage. Okay. Et lui, son problème, c'était qu'il fallait qu'il arrive, il pouvait arriver qu'à 9h et repartir à 5h le soir, parce qu'il voulait aller chercher son fils à l'école et faire la queue des hébergements d'urgence pour être sûr de pouvoir avoir une chambre. Donc, il ne pouvait pas bosser jusqu'à 10h ou 11h le soir.
Ouais.
Et ben, il a développé une méthode en se disant, ben, moi, plutôt que de commencer, parce qu'en fait, on leur donnait des fichiers de gens à contacter. Donc, dans une boîte, ils mettaient la secrétaire, le N+1, le N+2, le N+3 et le patron de la boîte. Et ben lui, il s'est dit, bah, tiens, moi, je vais commencer par le patron. Je vais commencer par la personne la plus haute. Pour gagner du temps. Et en fait...
Ouais, bien sûr.
Et aussi parce que, de toute façon, il y a quand même un truc, une règle de base, c'est qu'il faut toujours taper le plus haut possible. C'est sûr que ça redescendra toujours plus vite que ça remontera. Hein.
Ouais.
Et en fait... Ce film, il m'a marqué parce que, en fait, c'est quelqu'un qui était motivé par la survie et qui a trouvé des solutions pour devenir, parce qu'après il a été embauché, il est parti, il a créé sa boîte, il l'a vendue super vite, et il a monté des fondations pour aider les gens.
Ok.
Voilà, mais en fait ce qui m'a marqué comme impact, c'est qu'il a jamais laissé tomber son fils, quoi.
Ouais.
Son obsession, malgré tout ça, c'était son fils, sa famille.
C'est génial comme référence, carrément. Et oui, complètement, d'accord, peu importe que ce soit du trading. Là, c'est vraiment sur la leçon et l'approche de vie, quoi.
Ouais, bah si tous les êtres humains sur Terre traitaient très très bien leurs enfants, je pense qu'on n'en sait pas.
C'est clair. Écoute, merci beaucoup. Ma toute dernière question que je demande à chaque fois, est-ce que tu aurais un acteur de l'impact ou un entrepreneur que tu penses serait intéressant de podcaster pour l'interroger sur cette question de l'impact positif et du business?
Il y en a plusieurs, mais qui là,
qui te viennent en tête là comme ça suite à notre échange?
Peut-être Inès Mesmar, qui est une femme formidable. Une femme formidable, en fait, qui a créé une association qui s'appelle La Fabrique Nomade. Et en fait, je l'ai rencontrée, moi, il y a plusieurs années. Elle me dit, j'ai découvert il y a peu de temps, ma mère tunisienne, en fait, qui était, je crois, femme de ménage en France, qui avait un job alimentaire. En fait, j'ai découvert il y a très peu de temps qu'elle était couturière en Tunisie et qu'elle avait un savoir-faire de malade. Et en fait, Inès, elle a créé une association qui aide les personnes issues de l'immigration à vivre de leur savoir-faire en France.
Ok, génial.
Et en fait, aujourd'hui, je crois qu'ils sont une vingtaine.
J'irai regarder, je ne connais pas du tout. Génial.
Je pourrais te mettre en relation avec elle, ça intéresse. La Fabrique Nomade. Et elle travaille avec la Fondation Louis Vuitton. Elle a plein d'aides. Je crois qu'elle a une quarantaine de... elle aide une quarantaine d'artisans. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'elle fait, mais aussi, elle aide des savoir-faire venus d'ailleurs à s'implanter en France. Et moi, je me souviens qu'on avait des artisans à elle qui étaient chez nous. En fait, nos artisans, ils étaient fascinés par ces savoir-faire que possédaient ces artisans à elle, qu'ils ne connaissaient pas, quoi.
Oui, qu'ils ne connaissent pas. Et puis, en plus, ça garde... Enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça a l'air de garder aussi la notion de qualité et d'un peu d'excellence dont on parle souvent dans les métiers d'art. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont juste tué leur savoir-faire parce que la vie a fait que ils ont dû faire ça pendant un moment, mais où il y a vraiment quelque chose à transmettre dans leur savoir, quoi.
Ouais.
Donc, ok, j'irai carrément regarder. Merci beaucoup pour cette référence, je ne connaissais pas du tout. Me reste à te remercier pour cet échange d'une heure au final, mais vraiment sincèrement, plein d'apprentissages. J'espère que ça va encore une fois pouvoir aider, inspirer, donner des idées pratiques aux personnes qui nous écoutent. Et puis, j'ai hâte d'aller voir ici Montreuil, parce que du coup, j'ai pas pu venir, puisqu'on enregistre à distance. Et puis, ici Marseille aussi, le ici Nantes. Enfin, bref, au fur et à mesure que tout va rouvrir et qu'il y aura des déplacements en train, voir les lieux. D'ailleurs, toute dernière petite question, même si on n'est pas résident, est-ce qu'on peut, dans une ville, aller voir sur place ou visiter? Est-ce que vous organisez ce genre de choses?
Oui. En fait, il y a des visites toutes les semaines dans tous nos sites.
Super.
Et il y a des journées portes ouvertes. Cette année, il n'y en aura pas, mais on essaye de faire pendant les journées européennes des métiers d'art.
Ok, génial. Génial. Eh bien, écoute, un grand, grand merci. Et puis, je te dis à bientôt.
Oui, merci beaucoup. Puis, à bientôt.
Voilà pour ma causerie avec Nicolas Barre. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'Axe d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.